Vous écoutez On lit pour vous.
L'origine des cauchemars. Un texte de Mathieu Perrault publié dans la presse du 21 juin 2026. Question. Quelle est la cause des cauchemars? Est-ce que les produits laitiers pourraient être en cause? Une question du lecteur Gilles Jaudoin. Réponse. Il y a de grandes théories pour expliquer les cauchemars, selon William Kelly, spécialiste du sujet à l'Université du Verbe incarné au Texas, en anglais University of Incarnate Word. Citation. Certains avancent qu'il s'agit de côtés négatifs de la vie éveillée qu'on ignore pendant le jour, mais qui envahissent nos nuits, dit M. Kelly. Sinon, il y a la théorie qu'il s'agit de manifestations de traumatisme. Fin de citation. Semblé similaire, mais le psychologue de San Antonio note que 70 % des gens qui ont un diagnostic de trouble de choc post-traumatique ont des cauchemars toutes les semaines. C'est une proportion 10 fois plus importante que la moyenne de la population. Citation. Souvent, les gens qui ont un traumatisme ont le même cauchemar nuit après nuit. Il y a une quantité différente des cauchemars liés au traumatisme par rapport au cauchemar dont tout le monde va faire l'expérience. Fin de citation. Est-ce que certains aliments augmentent le risque de cauchemar? Il y a plusieurs études sur le sujet, par exemple pour les produits laitiers, mais elles ont des résultats inégaux, dit M. Kelly. Citation. Si l'alimentation ou la digestion joue un rôle dans les cauchemars, c'est certainement un rôle mineur. Fin de citation. La théorie voulant que les cauchemars soient le miroir d'une digestion difficile était à la mode à l'époque de Freud. Mais le père de la psychanalyse considérait plutôt qu'ils étaient le miroir de l'inconscient, note M. Kelly. Citation. Mais la théorie de la digestion a la vie dure. Fin de citation. L'étymologie de « cauchemar » fait référence à l'oppression et à un fantôme. Dans le « Christmas Carol » de Dickens, le revenant est au départ attribué par Scrooge à une indigestion. Est-ce que les enfants qui ont plus de cauchemars vont aussi en avoir davantage à l'âge adulte? Les enfants ont beaucoup plus de cauchemars que les adultes, mais il ne semble pas y avoir de facteur de prédiction pour les cauchemars à l'âge adulte, dit M. Kelly. Fin de citation. Entre 20 et 30 % des enfants rapportent au moins un cauchemar important par mois, selon lui. En tout, un adulte sur 25 et un enfant sur 20 ont un niveau de cauchemar assez intense pour être considéré comme un diagnostic psychiatrique, note le psychologue texan. Névrose. Quelles sont les questions de recherche les plus pressantes dans le domaine du cauchemar? Citation. Il faut identifier les traits de personnalité qui rendent les personnes plus susceptibles au cauchemar indépendamment des traumatismes. Il semble s'agir d'un problème de traitement des émotions. Quand on est plus négatif face à ses propres émotions, ce qu'on appelle névrose, il y a plus de cauchemars. M. Kelly s'intéresse aux cauchemars depuis 20 ans parce qu'ils ont un impact important sur la qualité du sommeil. Citation. Et si on ne dort pas bien, il est plus difficile d'avoir une bonne santé psychologique, dit-il. Fin de citation. Sa dernière étude sur le sujet, publiée fin 2024 dans la revue Imagination, Cognition and Personality, a conclu que les cauchemars surviennent plus souvent chez les gens inhibés, évitant l'attachement affectif et ayant des symptômes traumatiques. Fin de cette chronique de Mathieu Perrault titrée « L'origine des cauchemars » publiée dans la presse du 21 juin 2026.
Est-ce que le vibe coding permet vraiment de créer des applications? Un texte de Daniel Ishbia, I-C-H-B-I-A-H, publié le 6 juin 2026 dans Futura Science. créer une app sans savoir programmer. L'idée semblait jadis irréaliste. Avec le Vibe Coding, des intelligences artificielles transforment désormais de simples requêtes en logiciels fonctionnels. Mais cette approche peut-elle vraiment remplacer les programmeurs? Le Vibe Coding désigne une façon de développer où, pour l'essentiel, nous donnons des instructions à une IA. Chaque fois qu'une requête de ce type est indiquée, des chatbots comme ChatGPT, Claude d'Anthropic ou AI Studio de Google et des outils spécialisés tels que Cursor, Replit, Agent, Bolt, New, Windsurf, VibeCode ou Lovable ont accéléré l'essor du Vibe Coding. Ainsi, une personne ignorant tout de la programmation peut désormais créer un site web interactif, une app pour téléphone mobile simple ou encore un petit jeu vidéo. C'est une révolution en soi. Auparavant, une première révolution était née avec le low-code qui aide à créer des apps depuis des interfaces graphiques. Le Vibe Coding est bien plus simple et rapide encore. Est-ce à dire que cette approche peut remplacer les programmeurs? La réponse n'est ni totalement oui, ni totalement non. Le Vibe Coding permet bel et bien de créer des applications, mais avec certaines limitations. Le Vibe Coding est avant tout approprié à la création d'applications de base. Pourtant, on voit difficilement des entreprises confier le développement d'applications d'envergure au Vibe Coding. Dès lors que l'on s'attaque à des logiciels critiques, l'expertise d'un programmeur reste essentielle. L'IA produit du code qui fonctionne dans l'immédiat, mais qui n'est pas forcément optimisé. Il peut être mal structuré, peu efficace en termes de performance. Si l'application doit être exposée au public, le code devra être examiné et révisé par un développeur expérimenté. Le programme que l'on a pu créer en 2026 peut devenir obsolète l'année suivante du fait d'un changement législatif de certains taux, de certaines conditions. Une entreprise peut aussi avoir à faire face à un changement d'échelle. Une application qui fonctionnait pour une boutique doit désormais être déployée à l'échelle d'une région. Le programme doit alors être repris par un développeur qui devra analyser dans le détail le code produit par le Vibe Coding. On pourrait certes faire corriger le code par l'IA, mais sur le long terme, cette approche est risquée. À défaut d'être bien maîtrisée, les corrections successives peuvent dégrader le code. Habituellement, les programmeurs consacrent une forte partie de leur développement à s'assurer que l'application est sûre, hermétique à des tentatives de piratage. Les applications d'envergure ne peuvent donc se satisfaire du Vibe Coding. Les développeurs veillent également à tester toutes sortes de situations afin d'éliminer les bugs. De fait, certains bugs peuvent n'avoir une incidence que dans des contextes particuliers, mais se révéler ennuyeux, comme lorsqu'il se produit un blocage de l'application. Sans base en programmation, un utilisateur ne saura pas résoudre ces situations. Or, lorsqu'un tel problème survient, une entreprise s'attend à ce qu'il soit résolu au plus vite, et cela demeure lié à la compétence des développeurs. Le Vibe Coding ne supprime pas le besoin de compétences techniques pour des projets ambitieux et professionnels. S'il peut accélérer certaines phases du travail, la vision, l'architecture, la sécurité et la maintenance restent du ressort de l'expertise humaine. De plus, dès lors qu'il s'agit d'interconnecter des systèmes existants, gérer des dizaines de milliers d'utilisateurs en temps ou optimiser la sécurité, le Vibe Coding n'a plus droit de cité. À terme, il est possible que la frontière entre le Vibe Coding et le développement se réduise. Il reste que rien ne remplace la compréhension réelle du fonctionnement d'un programme et l'expertise nécessaire à la gestion de vastes architectures informatiques. Pour aller plus loin, on peut se demander plus généralement si l'IA menace nos emplois ou si, au contraire, l'IA, qui sait coder, ouvre de nouvelles perspectives. C'était Est-ce que le vibe coding permet vraiment de créer des applications? Un texte de Daniel Ishibia, publié le 6 juin 2026 dans Futura Science.
La solidarité recule. Un texte de Marine Cornioux paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science. En matière de maladies infectieuses, l'inaction coûte cher. Lorsqu'on baisse les bras sur les campagnes vaccinales, on voit réémerger des maladies presque disparues. Quand on abuse des antibiotiques, on favorise les bactéries résistantes. Et quand on supprime les équipes d'urgence et les centres de dépistage, on se retrouve avec des flambées épidémiques difficiles à enrayer. Pour les spécialistes de santé publique, il n'y a aucun doute. L'explosion du virus Ebola en mai dernier en République démocratique du Congo, RDC, est directement liée au désengagement des États-Unis dans la région. Dès son entrée en poste en 2025, Donald Trump a suspendu puis fermé l'Agence américaine pour le développement international, USAID, qui existait depuis 64 ans et soutenait des réseaux de surveillance des maladies. Dans la foulée, les États-Unis se sont retirés de l'Organisation mondiale de la santé. Ils en étaient le plus gros contributeur, assurant 15% du budget de l'organisme qui coordonne la riposte contre les épidémies. En RDC, ces décisions se sont traduites entre autres par le manque de fonds pour l'analyse des échantillons médicaux, par la pénurie de matériel de protection, par l'absence de spécialistes habituellement dépêchés sur place, avec pour résultat une détection bien trop tardive des cas. La RDC a l'un des systèmes de santé les plus précaires du monde. Il se classait deuxième parmi les pays les plus soutenus par l'USAID. Or, l'aide américaine y a été divisée par 66 en quelques mois. Les conséquences de ce retrait brutal s'étendent bien au-delà de la RDC et des questions sanitaires. Au total, 83% des programmes de l'USAID ont été abolis. Les 17% restants ont été transférés au département d'État américain. Concrètement, 10 000 projets dans plus de 100 pays ont pris fin, souvent du jour au lendemain. Il visait à prévenir et traiter le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, ainsi qu'à lutter contre la malnutrition, à promouvoir la santé sexuelle et reproductive, mais aussi à soulager les victimes des catastrophes naturelles et à prévenir les conflits. D'ailleurs, une étude parue dans Science constate déjà une augmentation de la violence dans les régions les plus délaissées, victimes d'un appauvrissement immédiat. Les conséquences sur la santé ne se font pas attendre non plus. Selon le journal The Lancet, la dissolution de l'USAID pourrait entraîner 14 millions de décès évitables d'ici 2030, dont celui de 4 millions d'enfants, principalement en raison du rebond du paludisme, du VIH-Sida et de la dégradation des systèmes de santé. Fin 2025, on estimait déjà que 400 000 enfants avaient payé de leur vie les frais de cette décision populiste. La population américaine surestime considérablement l'aide étrangère, l'évaluant à 25 % du budget fédéral, alors qu'elle en représentait moins de 1 %. Les États-Unis ne sont pas les seuls responsables de cette immense crise. En 2025, 26 pays donateurs ont diminué leur budget alloué à la coopération internationale, et ce, en dépit des besoins croissants. À eux seuls, les 5 plus grands bailleurs du Comité d'aide au développement de l'OCDE sont responsables de 96 % de cette diminution. Les États-Unis, 57 % l'Allemagne, 17 % la France, 11 % le Royaume-Uni, 11 % et le Japon, 6 % révèlent des données de l'OCDE publiées en avril dernier. C'est la première fois en presque 30 ans que ces donneurs retirent leurs billes en même temps. Le Canada, 7e sur la liste, a aussi réduit ses fonds. Mais les coupes américaines sont celles qui font le plus mal, car notre voisin du Sud assurait à lui seul 42 % de l'aide mondiale, avec un budget de 42,8 milliards de dollars en 2024, contre 900 milliards alloués à la défense à titre comparatif. Ces coupes ont eu un effet d'entraînement, leur étant davantage au réarmement qu'à la solidarité. En 2025, les dépenses militaires mondiales ont augmenté de 2,9 %. Il y a urgence à repenser le financement de l'aide au développement pour éviter cette dépendance excessive envers les 20 pays qui fournissent 97 % des fonds. Le milieu planche sur la question depuis des années, d'autant que le financement annuel atteint à peine la moitié des besoins établis par les Nations unies. Plusieurs pistes sont explorées, dont l'augmentation de la participation des entreprises privées et l'accroissement du nombre de pays contributeurs, ce qui demanderait aux nations occidentales d'accepter de partager la gouvernance politique avec d'autres pays, selon Pierre Micheletti, un médecin français spécialiste de la question. En attendant, rappelons-nous ceci. Loin d'être un acte de charité envers les 200 millions de personnes qui en bénéficient, la solidarité internationale contribue à la prévention de toutes les crises, et les guerres et les virus ne se gêneront pas pour nous le prouver. C'était « La solidarité recule », un texte de Marine Cornio paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science.
À un moment donné, il va me tuer. C'est ça que vous attendez? Un texte de Stéphanie Marin, paru le 13 juin 2026 dans Le Devoir. Je ne porte même plus plainte pour les bris de conditions. Ça ne donne rien, déclare avec découragement Anaïs, une mère de famille victime de violences conjugales. Elle est l'une des femmes qui ont accepté de raconter au Devoir ce qu'elles ont vécu et les difficultés qu'elles ont rencontrées quand elles ont porté plainte contre un ex-conjoint qui ne respectait pas ses conditions de remise en liberté. Elles sont quatre, d'âge fort différent, habitant dans quatre régions distinctes du Québec. Des noms d'emprunt ont été utilisés afin d'éviter de les mettre en danger. Certains détails n'ont également pas pu être rapportés pour la même raison. Il est question ici des conditions qui sont imposées à un accusé pendant le déroulement des procédures criminelles avant procès. Ne pas s'approcher de son ex-conjointe, ne pas communiquer avec elle, se tenir à bonne distance de sa résidence. Anaïs raconte avoir quitté sa maison en pyjama à toute vitesse quand elle a entendu son ex-conjoint charger son arme après avoir consommé de la drogue et de l'alcool pendant 2 jours et avoir fait déferler sur elle cris et menaces. Disant avoir vécu des actes de violence depuis des années, elle est partie se réfugier en courant. « En détresse », dit-elle, n'emportant avec elle que son enfant. L'homme a été arrêté, détenu pendant 2 jours et accusé de harcèlement criminel. Il a ensuite été libéré avec une très longue série de conditions à respecter, dont celle de ne pas entrer en contact avec elle et d'éviter tout lieu où elle pourrait se trouver. Des conditions qu'il a violées à peine 2 jours plus tard, dit Anaïs. Il a été arrêté à nouveau, puis détenu quelques jours, mais ce fut la dernière fois. Il est en liberté depuis, même si Anaïs a rapporté aux policiers de nombreux autres non-respects de conditions. La procureure de la Couronne, qui avait d'abord été assignée à son cas, était extraordinaire, raconte Anaïs. Mais depuis que son dossier a changé de main, elle dit que ses plaintes ne sont plus prises au sérieux. Les lettres trouvées dans ses effets personnels? Il n'y a aucune preuve que c'est lui qui les a déposées là. Le message à son sujet sur les réseaux sociaux? Pas de preuve non plus que c'est lui. Une autre personne aurait pu utiliser son téléphone cellulaire, rapporte-t-elle s'être fait dire par la nouvelle procureure responsable de son dossier.
Anaïs est découragée. À un moment donné, il va me tuer. C'est ça que vous attendez? Il y a quelque temps, elle s'est trouvé un nouvel appartement. 2 semaines plus tard, son ex-conjoint a emménagé tout près d'elle, au point où elle voit son logis quand elle est dans le sien, relate Anaïs. Elle a porté plainte, en vain. Et le temps que l'affaire se rende au tribunal, il habitait à cet endroit depuis quelques mois et a donc été autorisé à y rester. « Jamais je ne vais avoir la paix. » Sombre, elle dit savoir quelle sera la fin de cette histoire. Soit il se tue, soit il me tue. Sophia raconte avoir été contactée par un proche qui venait de recevoir un message laconique de son ex-conjoint. La missive contenait sa nouvelle adresse, elle qui venait tout juste de déménager pour s'éloigner de lui. Avec ce mot, il lui signalait qu'il savait où elle se trouvait. Quand Sophia a quitté la résidence familiale, elle a obtenu une ordonnance de protection en matière civile en raison des craintes qu'elle avait envers son ex-conjoint. En place depuis quelques années, cette procédure permet à la Cour supérieure d'imposer, sans dépôt d'accusation criminelle, une série de conditions afin de protéger une personne qui craint pour sa sécurité. L'ex-conjoint de Sophia s'est ainsi vu interdire de la contacter, de la harceler, en la dénigrant auprès d'autres personnes et de s'approcher à moins de 500 mètres de sa résidence, des restrictions assez habituelles. Mais Sophia l'aperçoit à plus d'une reprise devant son logis. Il lui fait aussi parvenir un message et contacte plusieurs de ses proches pour la traîner dans la boue, relate-t-elle en entrevue. Les policiers de la nouvelle ville où elle habite n'acceptent pas de recevoir ses plaintes pour non-respect de conditions. Ils lui disent « On ne peut rien faire pour vous », invoquant le fait qu'il s'agit d'une ordonnance de protection civile et non d'un ordre d'un tribunal criminel. Pourtant, la loi prévoit que les services de police peuvent intervenir si cette ordonnance est violée. Et le non-respect de conditions de libération est une infraction criminelle en soi. Son ex-conjoint a aussi envoyé à un tiers un message que l'avocate de Sophia juge très inquiétant. Nous ne dévoilerons pas sa nature pour préserver la sécurité de Sophia. Au poste de police, elle relate que les policiers lui ont demandé si son ex-conjoint l'avait verbalement menacée. Non. Est-ce qu'il était physiquement devant elle? Non. Rien à faire alors. Vous nous rappellerez à ce moment, ont-ils dit. Elle affirme leur avoir rétorqué en pleurant que le jour où il sera en face de moi, je ne pourrai pas vous appeler. Ce sont mes voisins qui vont vous appeler. Elle est où, la protection du système? Demande Sophia. 0. C'est le nombre de plaintes retenues par la police après que Marie eut porté plainte, 11 fois, dit-elle, contre son ex-conjoint pour non-respect de ses conditions de libération. La mère de famille a quitté son domicile en courant quand il l'a menacée de la frapper au visage en agitant son poing vers elle. Ce n'était pas la première fois qu'il était violent, et cette fois-là, elle a pris ses jambes à son cou, avec les enfants. Il a été accusé de harcèlement criminel et de voies de fait. Des conditions de libération lui ont été imposées. Ne pas l'approcher, ne pas l'épier, ne pas la surveiller. Malgré cela, il passe en voiture devant chez elle à répétition, rapporte Marie. Il n'a aucune raison d'être là. Il n'habite même pas le quartier, explique-t-elle anxieuse. Parmi les exemples de violations qu'elle donne, il y a celui-ci. Un ami de son ex-conjoint la voit dans un endroit public et fait un appel téléphonique en la regardant. Son ex-conjoint arrive peu après sur les lieux. Elle a pourtant des preuves. Les caméras de surveillance ont capté les images de son ex-conjoint qui circulent devant chez elle. Elle a aussi des photos. Rien n'y fait. Les policiers ne notent même pas ses plaintes, déplore-t-elle. Ils ont dit que la rue appartient à tout le monde et qu'ils ont des choses plus importantes à faire. Ce qu'elle vit est aujourd'hui minimisé, juge Marie. J'avais l'impression d'être personne, que ma vie n'était pas importante. Cela fait quelques années que Judith a quitté le père de ses enfants. Depuis, « Il n'y a pas un jour où je me suis sentie en sécurité », se désole-t-elle. L'homme n'accepte pas la rupture. Il est plus tard accusé de harcèlement et des conditions lui sont imposées. « Qu'il ne respecte pas », indique Judith. Elle se sent surveillée et prise au piège. Elle voit des connexions étranges sur ses réseaux sociaux à partir de différents appareils, dont le cellulaire de son ex. Il lui envoie des messages de diverses façons, bien que ça lui soit interdit. Elle rapporte aussi qu'il est entré par infraction chez elle à plus d'une reprise. Terrifiée, elle se rend à une certaine époque vivre dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences. Un soir, elle voit son ex-conjoint dans un véhicule stationné à proximité. Un fait qu'il a admis à son procès criminel. Cet événement fait ressortir toutes ses craintes, d'autant qu'elle croyait finalement être en sécurité. « J'avais tout le temps peur pour ma vie. J'étais toujours sur mes gardes. Ce n'est pas une vie. » Un jour, elle se rend avec un autre homme qu'elle a commencé à fréquenter dans un endroit où elle a fait une réservation. Les lieux sont situés dans une autre région. Sur place, elle découvre un objet très personnel laissé là à l'avance, visiblement pour qu'elle le trouve. Un chef d'accusation a été déposé cette fois-là. Tous les moyens étaient bons pour me faire savoir qu'il me surveillait. Elle décrit son ex-conjoint en ces mots. Une présence menaçante, toujours derrière moi. Elle se loue ultérieurement un appartement. Le jour de son déménagement, elle trouve son nom écrit sur la porte d'entrée. Elle en comprend qu'il lui fait savoir qu'il sait où elle habite. Elle appelle la police, qui va interroger les voisins. Personne n'a rien vu. Alors, il laisse tomber l'affaire, raconte-t-elle. Elle n'a plus porté plainte ensuite. Judith a le sentiment que les policiers ne font rien tant qu'il n'y a pas une agression physique. J'ai l'impression que les systèmes font quasiment exprès pour qu'il y ait des meurtres. Son ex-conjoint a finalement été condamné et incarcéré. Il l'a traqué, écrit la juge qui a présidé le procès. Elle qualifie d'ailleurs le comportement de l'homme d'effrayant. Il s'est néanmoins écoulé plus de 2 ans entre le premier non-respect de conditions retenues par la police et le jugement, une période durant laquelle il a continué à la terroriser. C'était « À un moment donné, il va me tuer ». C'est ça que vous attendez? Un texte de Stéphanie Marin, paru le 13 juin 2026 dans Le Devoir.